les autres.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors, tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. D'ailleurs, c'est sa dernière chronique de la saison, parce que c'est ma dernière semaine. À partir de lundi prochain, à Cube Radio, c'est la programmation estivale qui commence. Donc, Jérôme Blanchet-Gravel, salut.
Salut, Richard.
Écoute, Catherine Fournier, c'est un vieux débat, ça. Tous les partis politiques ont essayé de faire ça. Catherine Fournier aimerait qu'on abaisse l'âge de vote à 16 ans. Je sais pas comment tu étais à 16 ans, Jérôme, mais je n'étais pas apte à voter à 16 ans.
Ouais, non, 16 ans, c'était, je pense pas que c'était mes meilleures années en développement. Disons, le jugement était embryonnaire. Ça commençait à arriver, là. Ça se développait tranquillement, mais... J'aurais voté à gauche, hein, très, très à gauche. Hein, c'est-tu, Richard, en passant, adolescent, j'avais des tendances anarchistes. Peut-être même en ce moment qu'elles remontent, ces tendances-là, avec ma critique du confinement qui on associe plutôt au libertarianisme. Mais anarchisme et libertarianisme ne sont pas si loin que ça, finalement, hein, sur le dans le monde des idées. Donc, oui, j'ai un côté anarchiste. Donc, est-ce que c'est mon manque de jugement qui ressort? Je vais laisser aux auditeurs le soin d'en juger. Mais c'est des erreurs. En tout cas, bref, 16 ans, le projet de la députée indépendante Catherine Fournier d'abaisser le vote à 16 ans. Bien franchement, à quoi ça rime? Madame Fournier, qui est une députée qui a beaucoup, beaucoup d'idées, c'est une femme de projet. Je vois pas pourquoi elle propose ça, là. Alors, ça, c'est vraiment la proposition que tu fais quand t'as rien d'autre à proposer. Madame Fournier a bien des choses à proposer, donc qu'est-ce que ça donne?
Et là, je veux pas avoir l'air d'un vieux schnock qui juge les jeunes, c'est pas ça, mais 16 ans, là, tu sais, tu connais pas vraiment, toi, tous les tenants, les aboutissants. Il y a des gens qui vont dire, il y en a qui ont 53 ans, puis c'est des imbéciles aussi, là, qui connaissent rien en politique, puis qui votent pour la couleur de la cravate, puis la coiffure du bonhomme aussi, là. Il y a des gens qui pourraient te répondre ça, là. Il y a peut-être des jeunes de 16 ans qui ont un jugement incroyable, puis t'as des gens qui sont plus âgés, qui sont des profonds crétins.
Ben oui, on comprend pas ça va être quoi, ce serait quoi, parce que je pense pas que ça c'est sur le point d'être adopté au Québec. Non. Mais les bénéfices, là, c'est sur le plan moral, qu'est-ce que ça peut donner à la démocratie d'abaisser le vote à l'âge de 16 ans? Et là, j'ai écouté toute l'entrevue de Mme Fournier avec Patrick Lagacé au 98.5 il y a quelques jours, et on reste totalement dans le flou. Là. C'est que du vide, vraiment, franchement, désolé. C'est vraiment un pur discours de politicien. On se demande vraiment à quoi ça sert.
Mais elle dit quoi, elle? Elle dit qu'à 16 ans, tu as le droit de conduire, tu as certains droits. Oui, mais tu sais, à 16 ans, t'as pas le droit d'acheter de l'alcool, t'as pas le droit d'acheter de cigarettes, t'as pas le droit d'acheter de billets de loto. Tu peux, tu sais, puis on leur donnerait le droit de vote.
C'est des arguments assez techniques, là, qui reposent sur pas grand-chose. Donc, on va nous dire, effectivement, Richard, par exemple, que les personnes de plus de 16 ans peuvent déjà être membres d'un parti politique. Bon, on dit, OK, c'est un argument qui est pas si pire. Élire son chef aussi. Donc, comme s'ils sont membres d'un parti, ils peuvent contribuer à l'élection du chef. Le permis de conduire à Québec à 16 ans, un permis d'arme à feu aussi. Donc, on nous sort toutes sortes de technicalités bureaucratiques, là, pour...
Et toi, ça te convainc, ça te convainc pas, ça?
Absolument pas. Honnêtement, je vois pas. Et quand on commence à se plonger dans ce débat-là, ben on dit pourquoi 16, pourquoi pas 15? Et là, à 15 ans, vous avez trouvé d'autres choses qui commencent à partir de 15 ans. Pourquoi pas à partir de 14? Pourquoi pas donner deux voix à ceux qui sont propriétaires d'un chien? Moi, si mon chien aimerait exercer son droit de vote, parce que, bon, on sait que les protecteurs des droits des animaux considèrent les animaux de plus en plus importants, je rigole, mais... Je veux dire, pourquoi 16, pourquoi pas 17, pourquoi pas 15, pourquoi pas imposer le vote obligatoire comme en Australie? Ça nous plonge après dans une infinie mare de questions, puis on n'en sort pas. Franchement, je vois vraiment pas à quoi ça rime. C'est du vide.
Et quand t'es jeune, t'as tendance à être un peu plus extrémiste dans tes positions. Tu apprends les différentes nuances de gris en vieillissant. Bon, les gens vont dire, oui, mais à 18 ans, il n'y a pas grande différence qu'avec 16 ans. Je sais bien, c'est arbitraire, mais 18 ans, c'est la loi de la majorité. C'est ça, là, qu'on
oui,
a décidé.
C'est cohérent. Ça reste cohérent, le droit de vote à 18 ans au Québec, en fonction de la loi de la majorité.
Mais c'est...
De toute façon, je me méfie pas, moi, nécessairement, de la tendance des jeunes à voter plus à voter pour les extrêmes. Parce que l'ignorance, comme tu le disais au début, ben l'ignorance, ça n'a pas d'âge. Donc, tu peux être complètement con à 16 ans, complètement con à 77 ans. Tu peux t'intéresser beaucoup ou pas du tout à l'actualité à 77 ans ou à 7 ans, de 7 à 77 ans, pour reprendre les mots d'une célèbre chanson. Donc, l'ignorance, ça n'a pas d'âge. Donc, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les bénéfices d'une telle mesure? En allemand, c'est zéro. C'est vraiment une mesure cosmétique. C'est comme pour dire, regardez, j'ai quelque chose à proposer. C'est novateur. Moi, j'aime ça, la jeunesse. Oui, mais après, oui, j'aime ça, la jeunesse. Je peux comprendre. Tout le monde aime ça, la jeunesse. Tout le monde aime ça, voir des jeunes impliqués dans leur milieu, etc. Mais reste que c'est une mesure qui n'a aucun fondement, tant qu'à moi. Écoute, j'ai fait mes devoirs, puis j'en trouve aucun. Je trouve aucun argument qui a de l'allure. J'en ai même pas entendu un, franchement.
Écoute, il y a des gens qui ont des chroniqueurs, même Justin Trudeau semblait dire ça, là, entre les lignes, de rendre quasiment la loi 21 responsable de ce qui s'est passé à London. T'en penses quoi?
Ben, écoute, le Canada anglais... Quand il est question du Québec, c'est vraiment le roi des amalgames, le Canada anglais. C'est complètement injustifiable. Et ça va renforcer encore une fois le clivage entre qui est peut-être souhaitable du point de vue des souverainistes entre le Canada anglais puis le Québec francophone. Mais je peux pas concevoir, franchement, qu'on puisse se rendre là encore une fois. Écoute, un peu plus, puis on peut accuser même la laïcité française d'être responsable de l'attentat de London. Tant qu'à ça, c'est remonté à la source, et là, est-ce que c'est la France qui est même responsable de ça? Est-ce que c'est la Turquie qui a déjà appliqué les politiques de laïcité? Est-ce que c'est la Tunisie? Parce que la laïcité, en passant, c'est pas seulement une mesure française comme telle. Elle a été appliquée quand même en Turquie et en Tunisie, qui sont des pays arabes et musulmans. Donc, j'en tombe de ma chaise. C'est complètement pathétique de voir ces commentateurs-là faire cette association.
Ben oui, je suis bien content que tu parles d'amalgame, parce que, tu sais, on nous dit toujours faut pas faire d'amalgame et faut pas dire que tous les musulmans sont des islamistes. C'est tout à fait vrai, mais faut pas dire non plus que tous les musulmans sont contre la loi 21. C'est faux, il y en a qui le sont. Puis même le port du voile est une question qui divise la communauté musulmane elle-même.
Tout à fait, profondément. En fait, puis il y a beaucoup effectivement de femmes musulmanes qui, sans trop le dire, sont d'accord avec la loi 21 parce que ça les force d'une certaine manière. Et là, bon, ça les force, c'est pas le bon mot. Mais disons, ça leur permet de s'affranchir d'un courant rigoriste qui reste à l'intérieur de leur famille, qui reste à l'intérieur de leur communauté. Et mine de rien, elles sont très contentes, finalement, de s'affranchir, au moins sur leur lieu de travail, des contraintes religieuses liées à l'islamisme et à l'islam. Bon, ça dépend des courants. Puis ce que je remarque à chaque fois, et c'est quand même incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'une attaque ignoble contre des musulmans est commise, comme celle de London, comme celle de la mosquée de Québec, jamais on ne songe à attribuer au moins une partie de la faute au groupe islamiste comme tel. C'est ça qui est... Alors qu'on sait, et c'est documenté, les chercheurs, beaucoup de chercheurs et les islamologues en ont fait état, l'un des premiers objectifs des mouvements islamistes, c'est justement de créer des contre-attentats terroristes et de créer une impression, l'impression que les sociétés occidentales sont en guerre contre l'islam. Et à partir de ce moment-là, la discrimination envers les musulmans va augmenter dans les pays occidentaux. Et là, les citoyens musulmans vont se rallier à la cause islamiste. C'est ça le grand plan des islamistes, comprends-tu? Et jamais, jamais, surtout moins au Canada anglais, on ne songe à se dire, est-ce que les islamistes comme tels ont une responsabilité dans cette escalade des violences? Bien sûr que oui. 11 septembre, Charlie Hebdo, les attentats de Paris, combien d'attentats terroristes?
Et ça fait leur affaire à eux, parce que c'est ça qu'ils recherchent. Ils recherchent une guerre avec l'Occident, un genre de guerre civile. Et eux autres aussi entretiennent un genre de climat de confrontation qui fait que, malheureusement, ça pète d'un bord comme de l'autre.
Exactement, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça pète, ils veulent que ça éclate, et ils veulent diviser, polariser. et donc que le choc des civilisations advienne concrètement. Et donc, les esprits fragiles, très fragiles, psychologiquement très précaires, ceux qui commettent ce genre d'attentats-là, souvent, ils pensent qu'ils ripostent, qu'ils font une riposte contre l'islamisme. Évidemment, ils se trompent, puis ils assassinent des innocents. Mais eux, dans leur esprit, un peu de, c'est comme l'espèce d'esprit de chevalerie. Et ils ont l'impression qu'ils deviennent les chevaliers qui protègent l'Occident. Et c'est comme la nouvelle croisade. Et les islamistes, je peux te le dire, ils se réjouissent à chaque fois qu'un attentat est commis contre leur propre co-religionnaire. C'est ça, leur plan. Et personne n'en fait état dans nos médias. Personne.
C'est vrai, tout à fait. Tout à fait raison. Écoute, rapidement, là, Normand Baillargeon, dans Le Devoir, parle encore d'un exemple de cancel culture. Une prof qui a été suspendue parce qu'elle a fait lire un poème de Prévert. Dans le poème, c'est un poème d'amour. Le gars, il dit à sa blonde, « Je suis allé au marché des esclaves. Je ne t'ai pas vu là-bas. » Ce qu'il veut dire, c'est que tu n'es pas esclave de mon amour, tu es une femme libre, etc. Il y a une métaphore, il y a une image. Écoute, peux-tu croire que la prof a été suspendue pour avoir fait lire ça? Parce que dans le poème, c'est écrit « Marché d'esclaves ». C'est un poème, c'est une image, Christy.
Incroyable, ça dépasse. À chaque semaine, on a une histoire qui surpasse la précédente. C'est incroyable. Le mouvement woke, c'est vraiment le cancer actuellement des sociétés occidentales. C'est la censure, la lutte la guerre des races. C'est vraiment une incroyable régression. Et je t'annonce, malheureusement, Richard, quand tu vas revenir de vacances, tu vas être obligé de te remettre à ta table de travail et continuer à critiquer le mouvement woke parce que c'est un devoir. Et parce qu'ils n'ont pas fini, de nous censurer, de nous imposer leurs nouvelles idées.
Mais le pire, ce sont les institutions qui plient les genoux devant eux autres. Que des militants crinqués, extrémistes, il y en a toujours eu. Et des demandes folles, c'est une chose. Mais ce qui est nouveau dans cette histoire-là, c'est que maintenant, tu as des directeurs de festivals, des directeurs d'université, de cégep et tout ça qui leur donne raison. C'est
écoute,
ça qui est capoté.
Même le premier ministre du Canada appartient d'une certaine façon au mouvement woke, Justin Trudeau. Donc, quand votre premier ministre fait la promotion de ce genre de courant de pensée, vous n'êtes pas sorti du bois.
En tout cas, quand on va revenir en automne, on va continuer à parler du mouvement woke, mais je pense qu'on ne parlerait plus de pandémie. Je pense que ça va être fini en septembre. On se le souhaite. Passe un excellent été. Très bel été.
Un bel été à tous les auditeurs et à toi aussi, Richard. C'est toujours un grand plaisir.
Merci. Salut, Jérôme. Bye.
Merci.